Le débat africain. Alain Foucault.
Bocconi est là. Après plusieurs décennies de crise et une guerre civile qui a fait des milliers de victimes, tout le monde en Côte d'Ivoire en parle depuis des années. Tous la réclament à corps et à cris. L'accolade et les sourires devant les caméras qui ont accompagné le 27 juillet dernier la première rencontre entre le président Alassane Dramane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo marquent-ils le début du processus? Où en est la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Bonjour à tous et bienvenue à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, où le débat africain est installé aujourd'hui en marge du festival de musique d'Anomabo, le FEMUA, qui en est à sa 13e édition. Sur ce plateau en live, dans le bel amphi A, devant un public particulièrement chaud et engagé comme vous pouvez l'entendre. Avec sur ce plateau plusieurs invités, plusieurs personnalités. D'abord, Monsieur Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique. Il est porte-parole adjoint du RHDP, la coalition au pouvoir. Bonjour, Monsieur le ministre Mamadou Touré.
Bonjour.
Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Notre second invité est Innocent Youté, député de Kouibli. Il est à sa première mandature sous la bannière de EDS, Ensemble pour la démocratie et la citoyenneté, mouvement pro-Gbagbo. Innocent Youté est un ancien leader syndical qui a été emprisonné en 1994 pendant 17 jours, en même temps que Guillaume Soro et Charles Blé-Goudé. Bonjour Innocent Youté.
Bonjour.
Et merci d'être là. Notre troisième invité est Isaac Hadi. Il est membre du bureau politique du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, de Félix Houphouët-Boigny, dont Henri Conan Bédié est le président. Il est député de Pricro. Bonjour Isaac.
Bonjour Alain Foucault.
Nous avions invité le ministre Kouadio Konan Bertin, Kakabé, comme on l'appelle, le ministre en charge de la réconciliation nationale. Cela nous paraissait particulièrement indiqué. Il nous avait donné son accord pour être sur ce plateau. Et depuis, silence radio. Il ne répond plus à nos nombreux messages, étonnant de sa part, qui m'a souvent sollicité ces derniers temps pour participer à une émission consacrée à la réconciliation nationale. Alors, même si je m'écarte du sujet, je ne peux m'empêcher de démarrer cette émission aujourd'hui sans avoir une pensée forte, sans rendre un hommage à un militant panafricaniste, un amoureux du continent, avec qui j'ai partagé et cheminé un peu partout en Afrique pendant les 30 dernières années. Mon ami, j'allais dire mon frère, Amobe Mevege, qui a été de tous les combats pour une Afrique debout. Amobe Mevege, qui nous a brutalement quittés cette semaine. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Nos pensées t'accompagnent. Tu me manques déjà. Et j'ai envie que cet amphi te témoigne son soutien et son accompagnement, s'il vous plaît. Merci pour lui. On parle de réconciliation nationale dans ce pays depuis maintenant plus de 3 décennies. Et on se demande quand est-ce qu'elle se réalisera. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous qui êtes dans l'environnement politique ivoirien, vous avez le sentiment qu'on avance enfin vers la paix, que ce n'est plus simplement un slogan.
Merci Alain. Avant de vous répondre à votre question, je voulais d'abord vous remercier de cette invitation sous deux angles. D'abord pour le choix du lieu et du choix de la qualité des hommes.
Exact.
Vous avez choisi l'université qui rime avec jeunesse, mais qui rime également avec l'avenir de la Côte d'Ivoire. Or, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qui doit être le plus important pour tout Ivoirien. Vous avez choisi des hommes qui s'occupent des questions de jeunesse et qui doivent, dans les années à venir, influencer encore l'avenir de ce pays. C'est pourquoi, pour moi, ce débat, il faut le faire en déposant nos vestes partisans, en le dépassionnant pour qu'on pense à la Côte d'Ivoire. Et vraiment, je voudrais vous remercier pour ce choix-là. Cela dit, ça fait quand même quelques années qu'on parle de la réconciliation. On commence à voir des prémices. Beaucoup a été dit, mais très peu a été fait.
Donc aujourd'hui, on commence quand même à voir des prémices, Innocent Youté. Avez-vous le sentiment que ces prémices-là passent par le fait que le président Laurent Gbagbo soit revenu?
C'est un acte majeur. C'est un acte majeur et un acte fort, le retour du président Gbagbo. Parce qu'il faut le reconnaître, c'est était l'un des maillons manquants pour démarrer la réconciliation. Maintenant qu'il est rentré, il faut qu'avec lui, l'ensemble des exilés rentrent. Parce que la Côte d'Ivoire ne va pas se développer avec une partie des Ivoiriens contre une autre partie. Donc il faut que tous ces enfants de la Côte d'Ivoire rentrent et qu'on puisse véritablement démarrer. Donc je pense au ministre Charles Blé Goudé, mais je pense également à la libération de tous les ensembles des prisonniers civils et militaires. Moi je trouve inconcevable que des militaires qui répondent aux politiques soient encore en prison, parce que tout le monde sait qu'un militaire, il exécute les ordres. Que ceux qui donnent des ordres soient en liberté et que ceux qui ont exécuté les ordres soient en prison.
Là, c'est un point de vue que l'on entend de plus en plus en disant pourquoi est-ce que certains sont à l'extérieur, pourquoi est-ce que des militaires qui exécutent des ordres sont en prison. Monsieur Mamadou Touré, vous qui êtes de la mouvance présidentielle, avez-vous le sentiment que l'on avance vers des solutions dans ce sens-là aujourd'hui?
Mais bien évidemment, depuis 10 ans, la Côte d'Ivoire a amorcé, après la grave crise de 2010, la Côte d'Ivoire a amorcé un processus de consolidation de la cohésion sociale et de réconciliation. D'ailleurs, je me réjouis que les jeunes à la salle constatent avec nous qu'il y a des avancées. Il y a encore des choses à faire, mais on peut être honnête et reconnaître que beaucoup de choses ont été faites depuis 10 ans. Plus de 90% des réfugiés sont de retour, des comptes ont été dégelés, certains exilés ont pu rentrer librement dans leur pays et ont repris leurs activités. Et à ce niveau, je voudrais quand même nuancer des propos qui ont été tenus par mon prédécesseur. Charles Blé Goudé n'est pas en exil. La notion d'exil correspond à quelque chose de très précis. Charles Blé Goudé a fait l'objet d'une procédure judiciaire au nom de la Cour pénale internationale. Il a été acquitté. Il a entamé les démarches pour rentrer dans son pays et ces démarches sont en cours. Donc il ne faut pas confondre donc, les exilés et certaines personnes qui, par moments, sont des exilés volontaires parce que plus rien ne s'oppose aujourd'hui au retour donc, des uns et des autres donc, dans leur pays. Et le retour donc, de Laurent Gbagbo et sa rencontre avec le président Ouattara a été perçu aussi comme un acte donc, de décrispation. Et je voudrais dire que tout cela est à l'actif du président de la République, qui sait, parce qu'il a à cœur de développer ce pays, que ce pays ne peut pas avancer s'il n'y a pas de cohésion.
Sans la paix,
et
sans la
réconciliation. Et pour ça, il faut que tous les acteurs, et c'est par là que je vais terminer, que tous les acteurs jouent leur rôle, parce que jusque-là, les initiatives viennent du président Hassan Ouattara.
Nous sommes oui, mais en même temps, on a envie de vous dire, pour l'instant, c'est lui qui est aux affaires, et que s'il va y avoir un mouvement de réconciliation...
Oui, mais pour se battre, il faut être deux. Pour se battre, il faut être deux.
Oui, mais
pour
si les autres ne sont pas là...
Et il fait ce qu'il a fait de par sa responsabilité de chef de l'État, mais je dis l'opposition a aussi un rôle à jouer. Et nous attendons que les actes de discrimination, des propos, des attitudes irresponsables soient démultipliés donc au niveau de l'opposition.
Isaac.
Merci. Merci Alain. Pour ma part, vous voyez, la réconciliation nationale, ça ne se décrète pas. C'est un processus. Et le processus, il peut être long, comme court, comme vu à moyen terme. Tout dépend des acteurs qui doivent donc animer donc la vie politique de notre pays. Voyez-vous, nous n'allons pas reprendre l'histoire récente de notre pays. Mais qui parle de réconciliation parle de conflit. Qui parle de conflit parle de cause. Et il est important que les raisons qui ont amené donc à la déconfiture donc de notre pays, il faut que ces raisons... sans pratiquer donc la politique de l'autruche, que ensemble nous regardons en face, opposants, comme parti politique, comme société civile, comme jeunes, qu'ensemble nous nous retrouvions pour que ensemble on trouve des solutions durables.
Comment vous voyez ça s'articuler?
Alors c'est très simple. Hein. Vous voyez tout à l'heure quelqu'un nous disait c'est le début. Le président Laurent Gbagbo est rentré. Il a rencontré le président Henri Konan Bédié. Par sa suite, il a rencontré le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, ce que les Ivoiriens attendent, que ces trois grands leaders déjà puissent se rencontrer autour d'une même table. Et au-delà de ces trois grands leaders, il y a aussi des leaders à l'extérieur politique. Et autour de cette même table, nous allons définir les conditions. Et je vous dis, les conditions sont déjà là. Puisqu'il y a eu une première phase avec feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, où 23 points ont été identifiés, de 23 points de convergence, dont la mise en œuvre devait pouvoir aboutir donc à la réconciliation nationale. On peut dire merci déjà au président de la République parce que déjà on a des sorties de prisonniers, il y a certains exilés qui sont donc retournés au pays, mais il y a encore d'autres points importants, éminemment importants qu'il faut aborder pour que nous aboutissions donc à cette réconciliation nationale vraie.
Alors, on écoutait à l'instant le ministre dire, Innocent Yuté, que pour qu'il y ait réconciliation, il faut être plusieurs. ce n'est pas l'affaire d'un seul camp. Avez-vous le sentiment que le camp, les autres camps en face, ne manifestent pas la même volonté d'aller à la réconciliation? Pourquoi le ministre dit ça d'après vous?
D'abord, je voulais préciser qu'en parlant de Charles Blé Goudé, j'en parlais dans le cas du retour du président Laurent Gbagbo et qu'il restait Charles Blé Goudé derrière. C'était les deux co-détenus de la haie, mais pas en tant que réfugiés. Et cela dit, oui, je suis d'accord, pour faire la réconciliation, il faut être à deux, il faut être à plusieurs. Parce que si on parle de réconciliation, ça suppose qu'il y a eu problème. Et en Côte d'Ivoire, les problèmes, il y en a eu. On a connu le problème du sang, oui, on a connu le guébier, on a connu l'affaire Séguéla, on a connu le coup d'État de 99, on a connu la rébellion de 2002, on a connu la crise post-électorale de 2011. Donc, problème, oui, il y en a eu. Est-ce qu'il y a eu des victimes? Oui, il y a eu des victimes. Est-ce qu'il y a des bourreaux? Oui, il y a des bourreaux. Donc, pour moi, pour que la réconciliation puisse se faire, il faut qu'il y ait des victimes qui soient prêtes à pardonner. Et ça demande l'engagement de tout le monde. Mais il faut également établir la vérité. Et c'est pour ça que je regrette que le ministre de la Réconciliation ne soit pas là. Le président de la République, Alassane Ouattara, a commis une commission, la CDVR, qui a sorti un rapport depuis décembre 2014, avec une mission précise, avec des recommandations claires et précises. Je n'ai pas le sentiment encore qu'on a pu mettre en œuvre 5% de ces recommandations, alors que cette commission a travaillé avec l'argent du contribuable et beaucoup de choses contenues dans ce rapport peuvent faire avancer la Côte d'Ivoire.
Monsieur le ministre,
mais je vais pourquoi répondre tout de suite.
Ces recommandations ne sont pas encore mises en place
tout de suite. Heureusement qu'il parle de sentiments par rapport à ce rapport, mais il doit savoir que ce rapport a mis un accent sur la situation des victimes. Plus de 3000 victimes de la crise post-électorale ont été dédommagés, ont reçu une indemnisation. Et quand je parle de victimes, je parle de victimes de tous les camps, que ce soit des victimes de Diokoué jusqu'aux victimes d'Abobo, etc. Il parle du rapport, mais le rapport a recommandé donc, la facilitation du retour donc, de certains réfugiés et exilés. Et je vous dis, d'ailleurs, il y a eu une réunion avant-hier avec donc le HCR, le gouvernement, etc., pour s'accorder, il dit qu'il y a plus de 90% des réfugiés qui sont rentrés, et d'ici 2022, la Côte d'Ivoire n'aura plus de réfugiés. Donc, le président, c'est lui qui a mis en place la CDVR, c'est lui qui avait une vision.
La et commission sur la base de vérité des réconciliation.
Et sur la base donc, de cette vision qu'il avait pour son pays, depuis 2011-2012, le président a commencé à poser des actes. On pourrait parler des 800 détenus ou exilés qui ont été amnistiés. On peut parler même de la mise en liberté sous contrôle judiciaire de certains détenus, etc. Je pense aujourd'hui qu'on peut être honnête et dire qu'il y a une bonne dynamique. Mais par contre, et ça c'est un constat personnel, vous avez vu ces jeunes qui sont dans la salle, ils sont de toutes les ethnies, ils sont de tous les partis politiques. Vous êtes à Abidjan depuis plusieurs jours, vous verrez que sur l'ensemble du territoire national, les populations n'ont pas de problème entre elles. Il y a un vrai problème au niveau de la classe politique ivoirienne. On parle des guébiers, mais ça date de plus de 30 ans, plus de 40 ans, mais ces jeunes n'étaient pas nés. Il ne faudrait plus que la classe politique ivoirienne prenne les Ivoiriens en otage par rapport à leurs ambitions personnelles.
Moi, je voudrais dire à Monsieur le ministre, vous voyez, souvent nous confondons une accalmie à un moment de paix, à un moment de réconciliation vraie. Ce n'est pas parce que tout est calme qu'il y a forcément la réconciliation. C'est pour ça que nous disons que les points clés qui ont été identifiés, qui ont été à la base des conflits, il faut qu'on ait le courage de les déminer un à un. C'est très important. Quand vous aurez fini, il a même dit, la réconciliation, ce n'est pas une personne, c'est tout le monde, c'est toute la classe politique. Aujourd'hui, on nous dit non, cette crise-là, à la limite, on n'a pas besoin de la classe politique. Je dis non, certains le disent, je dis non. C'est une crise qui est politique. Il faut une réconciliation d'abord politique pour que le peuple, les populations puissent suivre. Vous êtes d'accord avec moi? Le poids politique du président Alassane Ouattara, le poids politique du président Henri Konan Bédié, le poids politique du président Laurent Gbagbo, l'influence de ces trois leaders sur la population ivoirienne, elle est réelle, qu'elle soit jeune ou qu'elle soit vieille. Donc ce qui est important pour nous, c'est qu'il ne faut pas se voiler la face, il faut déminer. Il a parlé du retour des exilés, c'est une très bonne chose, mais c'est un élément. Il y en a plusieurs autres qu'il faut pouvoir citer et pour pouvoir les régler, notamment les problèmes électoraux. Chaque fois, nous avons, quand il y a une élection, c'est la mort. Pourquoi? Pourquoi? Alors qu'ailleurs, c'est la fête, on finit de voter, les gens se congratulent et la vie continue. Mais pourquoi chez nous? Voilà la réalité.
Mamadou Touré.
Je peux répondre tout de suite. Quand il y a des élections, malheureusement, il y a des morts. simplement parce que certains refusent les règles du jeu. Les règles du jeu ont été refusées en 2010, alors qu'on était tous d'accord sur les règles du jeu. Vous étiez avec nous. Les règles du jeu ont été refusées en 2020. Donc, tant qu'on n'apprendra pas à respecter les règles du jeu, et souvent qui sont des règles consensuelles, mais on aura toujours des problèmes. Donc, la réconciliation, c'est aussi le respect de l'état de droit, c'est le respect des règles du jeu,
surtout en matière électorale. Comment on installe ça, très concrètement ?
Très concrètement, vous savez, avant ces dernières élections, le gouvernement a entamé une série de discussions inclusives avec tous les partis politiques. EDS était à la table des discussions, le PDCI était à la table des discussions. Vous avez vu que certains partis politiques ont boycotté ces discussions, ce qui est antidémocratique pour nous. Et donc, l'attitude donc, des politiques par rapport aux enjeux nationaux et en rapport avec leurs intérêts propres peut mettre à mal la cohésion sociale. C'est pour ça que j'insiste
aussi sur le fait que est-ce qu'on peut faire la réconciliation nationale en faisant fi de la justice et de tout ce qui s'est passé avant ? Est-ce que ce n'est pas ce qui nourrit justement cette désobéissance de la part, ou en tout cas cette attitude de la part des politiques ?
Mais notre position a toujours été claire. La réconciliation ne pourra pas se faire contre l'état de droit. Une fois qu'on a dit ça, il y a des actes qui sont posés dans les limites des prérogatives du président de la République et du gouvernement. La justice est totalement indépendante, elle fait son travail.
On a du mal à penser que la justice soit totalement indépendante, puisqu'on a le sentiment aujourd'hui, ça ne vient pas de moi, ça vient de la plupart de ceux qui écrivent, de dire qu'il y a la justice du vainqueur, point pour l'instant, qu'en face, on n'a pas vu les condamnés.
Excusez-moi, c'est des slogans politiques. Lorsque Simone Aïvé Gbagbo est poursuivi pour crime contre l'humanité par la justice ivoirienne et qu'elle est totalement blanchie par la justice ivoirienne, on applaudit, on salue l'état de droit. Mais lorsqu'il y a des condamnations, on considère qu'il n'y a pas de justice. Cette lecture à géométrie variable, donc des décisions de justice, n'est pas notre proposition. Nous avons une justice qui est totalement indépendante, qui fait son travail, et nous avons le gouvernement.
Donc il va y avoir d'autres procès ou pas ?
Mais il reviendra à la justice de déterminer. Et pour nous, et je crois que c'est ce sur quoi nous pouvons tous nous accorder aujourd'hui, l'impunité est aussi une cause donc des conflits que nous connaissons. La réconciliation ne peut pas s'arrimer avec l'impunité. Il a parlé des victimes qu'on n'entend pas. J'aurais souhaité que sur ce plateau, on ait un représentant des victimes. Les victimes ne sont pas seulement audibles. Je parle de toutes les victimes.
Mais nous avons reçu dans ce magazine, puisqu'on en a multiplié des émissions sur la réconciliation nationale, on a régulièrement reçu des victimes. Et aujourd'hui, on se fait porte-parole de ces victimes qui disent à quand la justice pour qu'enfin nous puissions faire notre deuil. Aujourd'hui, Innocent Youté, avez-vous le sentiment que ça ne manque pas au tableau, que cette justice-là ne manque pas au tableau ?
Effectivement, on est tous unanimes là-dessus. Il ne peut pas avoir des réconciliations sans justice. Le ministre a parlé tout à l'heure du calme, et je suis d'accord avec le député, il a dit quand il parle d'accalmie. Mais parce que, dans ce rapport, il a dit, nous allons nous rencontrer régulièrement des populations. Beaucoup de gens ont peur des représailles. Même le slogan du président de la République, de vivre ensemble. Vous m'avez spolié ma maison. Vous êtes encore dans ma maison. Mais parce que j'ai peur des représailles, je ne parle pas, je ne dis rien. Mais ça ne veut pas dire que je suis content. Et donc cette accalmie ne suppose pas qu'effectivement tous les problèmes sont réglés. Et tant que tous les biens qui ont été volés et spoliés, la réconciliation passe aussi par la rétrocession de tous les biens. Avant même de parler de dédommagement de l'État, c'est le minimum. Déjà, moi je viens d'une région comme l'Ouest. Et mon chef lieu de région c'est Dioukoué. Quand vous avez eu des gens, et on est ahuri de voir des gens qui se sont installés par la force au prix de Kalachnikov, dans des forêts, souvent dans des forêts classées. L'État décide de reprendre le droit sur ces forêts classées et on demande aux populations de trouver des places pour ces personnes. Mais Alain, pour moi, c'est comme si un voleur se présente pour prendre une police d'assurance pour accident de travail. C'est inadmissible.
On en parle juste après une nouvelle édition du journal dans la seconde partie du débat africain. On évoquera justement cet aspect-là et puis on parlera aussi d'avenir puisque ces jeunes ont besoin qu'on leur parle de ce qui va leur être proposé. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la seconde partie du débat africain.
Le débat africain, Alain Foucault.
Merci d'être là à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Pendant longtemps, on a parlé de réconciliation nationale dans toutes les familles politiques de Côte d'Ivoire. Mais manifestement, jusque-là, rien ne semblait se mettre en place de façon concrète. Au-delà des discours et des slogans, personne ne semblait d'accord sur le processus. Beaucoup conditionnaient son démarrage à la libération et au retour du président Laurent Gbagbo, emprisonné à La Haye, au pays. Cette fois-ci, c'est fait. Et les deux principaux protagonistes de la crise se sont rencontrés pour la première fois depuis leur duel en 2011, en juillet dernier, au palais présidentiel, devant les caméras, avec des sourires et des gestes de fraternité qui continuent d'alimenter les discussions dans tout le pays. Début de processus ou réconciliation de façade. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain qui est ce dimanche en Côte d'Ivoire, à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, devant un public de jeunes très engagés et qui sait se faire entendre. Sur ce plateau en live, plusieurs invités. D'abord, M. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique. Il est le porte-parole adjoint du RHDP, la coalition au pouvoir. Notre second invité est Innocent Youté, député de Kouibli. Il est à sa première mandature sous la bannière de EDS, Ensemble pour la démocratie et la citoyenneté. Troisième invité de ce plateau, Isaac Hadi. Il est membre du bureau politique du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, de Félix Houphouët-Boigny, dont Henri Conan Bédié est le président. Il est député de CRIPRO, que je vous demande d'applaudir également. Je suis obligé de rappeler que nous avions invité le ministre Kouadio Conan Bertin, le ministre en charge de la Réconciliation nationale, qui nous avait promis d'être là. On ne sait pas pourquoi il n'est pas là, mais peut-être qu'il nous l'expliquera une autre fois. Et puisque nous parlons de réconciliation nationale, j'ai envie de retourner vers les étudiants, chez qui nous sommes aujourd'hui, pour écouter ce qu'ils en pensent. Ils vous ont écouté dans les 20 premières minutes. Alors, on donne la parole à qui, Delphine ?
Bonjour, je suis Martinier Yapi, étudiant en Master 2 de communication. Alors, j'ai écouté les interventions. Je suis d'accord que la réconciliation est en marche. Mais comme mon prédécesseur, je dirais que la réconciliation, comme la démocratie, est un idéal. Par conséquent, un processus. Et ce processus nécessite en même temps qu'on fasse l'effort de mettre sur pied les instruments de la démocratie. Parce qu'il y a eu crise, parce que les instruments de la démocratie n'ont pas été respectés. Et je suis choqué, moi, qu'on pense que la démocratie aujourd'hui ne s'arrête qu'aux critères d'élection. La démocratie prend en compte la justice, l'état de droit. On aurait eu une Côte d'Ivoire où tout le monde est d'accord sur la crédibilité de la justice, si l'état de droit effectif, qu'on aurait moins de problèmes en Côte d'Ivoire.
Isaac Hadi, vous avez écouté, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors, je l'ai dit en début d'émission que c'est un processus, et tout à l'heure on l'a dit, il ne peut pas avoir de réconciliation s'il n'y a pas de justice équitable. Il ne peut pas avoir de réconciliation s'il n'y a pas de démocratie, s'il n'y a pas de réparation des victimes. C'est très important. Et on l'a dit, c'est un processus, et le ministre l'a dit tout à l'heure, ça a démarré, ça a commencé, mais nous voudrons que ça puisse accélérer. Parce qu'il ne faudrait pas perdre du temps. Les jeunes sont là, ils ont envie d'aller à l'école dans de bonnes conditions, ils ont envie de travailler, ils ont envie de profiter de la vie. Il faut que les politiciens leur servent ce pays-là où il fait beau vivre, où il n'y a plus de distinction entre un Bété, un Djoula, un Baoulé, où c'est la nation ivoirienne qui se retrouve. Voilà ce que nous attendons de cette réconciliation nationale qui tarde à venir.
Alors, lorsque nous avons terminé la première partie de cette émission, Innocent Youté évoquait le fait qu'il y a des gens à qui on a arraché leurs biens et à qui on n'a pas encore remis ces biens-là en disant « bon, c'est la réconciliation nationale, on accepte la situation ». Est-ce qu'on va réparer ces injustices, monsieur le ministre, pour que revienne la paix dans l'Ouest dont il parle ?
Non, je pense qu'il faut éviter, d'instrumentaliser un certain nombre de questions. Il est député, il sait que depuis 2011... S'il est vrai qu'après la crise de 2011, effectivement, il y a beaucoup de biens qui avaient été injustement pris par certaines personnes, des militaires, etc., il sait qu'il y a un processus donc, de rétrocession de ces biens qui a été mis en place. Et la plupart des personnes qui avaient vu, donc, ce qui s'était vu déposséder de leurs biens, ont retrouvé leurs biens. Maintenant, la question de forêt classée est une question qui est traitée par le gouvernement. La forêt classée, en principe, personne ne va se retrouver dans une forêt classée, que ce soit les populations autochtones ou des populations halogènes ou étrangères. Mais il s'avère que ces forêts ont été colonisées. Le gouvernement a mis en place donc une stratégie qui vise premièrement à sécuriser ces forêts classées, notamment les zones qui n'ont pas encore été colonisées, et ensuite à faire sortir donc les populations de ces forêts classées. Il pourrait parler d'Amédée Orémi, qui dirigeait une force paramilitaire, mais qui a été arrêté et qui aujourd'hui donc a été jugé et aujourd'hui en prison. Donc le gouvernement a mis en place tout un dispositif pour sortir les personnes de ces forêts classées. Maintenant, une partie de ces forêts classées qui relève du domaine de l'État, elle sera rétrocédée donc aux populations. Et donc ça, c'est tout un processus qui doit pouvoir se faire sans manipulation politique. Et je voulais terminer pour dire une chose. Il a parlé de la question des militaires. Je voudrais m'étonner aujourd'hui, Alain, toute la stratégie de cette opposition, de cette frange de l'opposition au nom de la CPI, pour aboutir donc à une libération, était de dire qu'on ne nie pas les crimes qui ont été commis, mais nous ne sommes pas responsables des crimes qui ont été commis. Sortir de la CPI et venir dire aujourd'hui que ces militaires qui ont commis ces crimes répondaient de nous politiques, mais il fallait dire ça à la CPI. Donc ce double langage, cette manière de ruser n'est pas aussi faite pour favoriser la réconciliation nationale.
Innocent Yuté, que répondez-vous à ça, à l'instrumentalisation?
Oui, alors sur la réaction des étudiants, je partage beaucoup, mais ce que je ne partage pas en tant qu'Ivoirien, c'est que la réconciliation peut pas être un idéal pour l'Ivoirien que je suis. C'est une nécessité pour faire avancer le pays.
Avant d'arriver là, parce qu'il a posé une question claire en disant il y a une instrumentalisation. Hier, on disait les militaires ne sont pas les nôtres. Aujourd'hui, on dit c'est les nôtres et on veut les défendre. En gros, il dit qu'il y a instrumentalisation. Que répondez-vous à ça, vous?
Merci. Je réponds en disant que, de mon avis, j'ai pas d'instrumentalisation. Il n'y a pas d'instrumentalisation pour moi. Le procès de la CPI, c'est une chose, je n'étais pas détenu à la CPI, je n'étais pas avocat, mais le procès de la CPI a eu lieu. Ce que j'ai dit, c'est qu'un militaire, il répond toujours aux ordres d'un politique. Et si les causes qui ont amené ce politique en prison, il est anormal que celui qui a donné des ordres soit en liberté et que celui qui a les exécutés soit en prison. Pour moi, c'est du 2 points demi-sous. C'est clair. Voilà ce que j'ai dit. Maintenant, s'agissant des biens, là encore, il n'y a pas d'instrumentalisation. Le ministre a dit que la plupart des biens ont été rétrocédés. Je m'en réjouis. Mais moi, en tant qu'Ivoirien, qui veut que son pays soit stable, que les Ivoiriens vivent en paix et en harmonie, je souhaite que la totalité des biens soit rétrocédée. Parce que c'est ça qui trouve souvent un problème. Si vous avez ma voiture, vous avez ma maison, que j'ai peur des représailles, je ne parle pas, mais à la moindre étincelle, ça peut dégénérer. Et c'est ça de ça qu'on n'en veut pas. La deuxième chose, mais il faut aussi qu'on puisse permettre aux perpétrateurs, de pouvoir avoir une couverture pour reconnaître en disant que si vous reconnaissez le mal que vous avez fait, vous devez être protégé par le service public. Et pour moi, quand on a la destinée de 25 millions d'Ivoiriens en main, aucun sacrifice n'est de trop pour amener la paix, la stabilité, la quiétude. Voilà ce que j'ai dit.
Isaac a dit.
Oui, alors moi ce que je voudrais dire donc concernant l'instrumentalisation ou pas donc, du processus, moi, je le dis, on ne peut pas jouer au chat et à la souris pendant longtemps. Moi, je le dis aujourd'hui, monsieur le ministre, c'est votre régime qui est au pouvoir. Je pense que c'est à vous de booster la réconciliation, à mon avis. Les opposants, l'opposition est prête. Moi, je prends le cas du PDCI-RDA. Avant les élections déjà, le président Henri Konan Bédié a appelé au dialogue inclusif. Il a même demandé à un moment donné qu'on puisse reporter les élections pour qu'on puisse s'entendre sur le minimum. Il n'a pas été écouté. Après les élections, on se souvient, le 11 novembre, il a rencontré le président de la République alors qu'il venait de sortir d'un blocus. Il a accepté d'aller au dialogue avec le président. Il a même suggéré encore l'idée d'un dialogue inclusif pour que tout le monde soit à la table pour qu'on puisse trouver des solutions. Et le 4 août, Alain, le président Henri Konan Bédié a encore envoyé un courrier au président de la République pour lui dire « c'est le moment, Le dialogue est là, nous devons faire le dialogue. Vous avez commencé un bon processus de libération des prisonniers. Il faut continuer pour que nous arrivions à une réconciliation vraie. Figurez-vous qu'aujourd'hui, nous avons encore des jeunes qui sont en prison, des jeunes du PDCI et même d'autres partis de l'opposition qui sont encore en prison. Alors, on ne peut pas parler donc de réconciliation. Et puis, il y a certains de ceux qui sont faits de moitié. Je dis non, il faut aller vite. Ce que nous pouvons le faire, nous pouvons le faire. Et je pense que le pouvoir en place peut le faire et accélérer la réconciliation.
Monsieur Mamadou Touré.
Alors, je ne peux pas laisser passer certaines choses. D'abord, il y a les points sur lesquels nous sommes d'accord. Il faut qu'il y ait la réconciliation. Nous sommes d'accord que nous sommes au pouvoir, nous, régime RHDP, et c'est notre responsabilité de créer l'environnement, de poser des actes. Et nous le faisons depuis 10 ans. Mais je ne peux pas laisser passer certaines choses, surtout des contre-vérités devant ces jeunes. Avant l'élection présidentielle, en octobre, le gouvernement, à travers le Premier ministre Ahmed Bakayoko, a appelé 2 fois l'opposition à la discussion pour régler les dernières questions qui devaient être réglées en vue donc de l'élection présidentielle. Ils ont brillé par leur absence. Mais qu'est-ce qui nous ont servi? La désobéissance civile, avec l'armement de jeunes dans le Vébaoulé. On a quand même eu des gens qui ont été tués. La désobéissance civile, une approche radicale. Des gens ont été tués, puisque la reconnaissance c'est la vérité, mais il faut qu'on se dise la vérité, à Dabou, à Bongouanou, à Ra, etc., des gens ont été tués. Mais ces jeunes qui sont en prison aujourd'hui, et ça me permet de donner une conviction personnelle, parce que ces jeunes qui ont été en prison aujourd'hui, c'est vous qui les avez envoyés faire ces casses. Et je peux vous dire qu'à Dabou, par exemple, il n'y a pas que les jeunes de l'opposition qui ont été arrêtés. Ceux qui ont été arrêtés, qui sont aux mains de la justice, relèvent des 2 camps. Et ça, il faut le dire. Mais je dis, la politique ne peut pas être un coin de refuge pour des bandits à poil blanc. Il faut que vous assumiez vos responsabilités. On ne peut pas se cacher derrière un statut politique.
Vous me donnez l'opportunité, monsieur le ministre.
Non, on ne peut pas se cacher derrière un statut d'homme politique et instrumentaliser des pauvres jeunes et les amener à aller faire des choses.
Monsieur le ministre, on sait depuis plusieurs années dans ce pays que les jeunes, les moins jeunes disent, et on le sait, les crises dans ce pays sont généralement avec 3 chefs. 3 chefs depuis des décennies. Le président Laurent Gbagbo, le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Dramane Ouattara. Les crises sont toujours entre les 3. Alors beaucoup le disent. Est-ce qu'aujourd'hui, la réconciliation ne passe pas par le fait de mettre tout cela de côté et de tout recommencer à 0?
Mon point de vue...
C'est ce qui est dit, c'est ce que l'on entend partout. Est-ce que ça n'est pas une des solutions? Et est-ce que vous, jeunes, vous, politiques, ne devez pas en discuter avec ceux-là qui ont un certain âge et à qui on demande peut-être qu'il faudrait passer la main?
Mais moi, je vous dis, c'est très réducteur que de réduire la crise à ces 3 personnes.
Mais c'est les
ces
principaux.
Ces 3 personnalités gèrent avec des personnes de ressources qui sont des collaborateurs, qui ne sont pas moins impliqués dans des crises
mais
que nous connaissons.
Mais c'est eux les leaders. C'est
Je note que parmi les 3 leaders, ceux qui ont tous géré ce pays, celui qui aura, sous sa gouvernance, fait le plus d'avancées sur les questions de réconciliation, avec des actions concrètes, parce que les autres ont été aussi dans des situations de gouvernance, de gouvernement, où il avait des actes à poser. Celui qui aura fait le plus avancer ce pays sur la voie du développement de la réconciliation de la cohésion sociale, c'est bien le président Alassane Ouattara.
Alors, si les jeunes... On va commencer par Innocent Huté. Moi, j'ai besoin qu'on réponde à cette question posée par les jeunes. Les jeunes disent, est-ce que ce n'est pas le moment de passer le relais pour ces 3-là, Innocent Huté?
Ça pourrait être une solution. On pourrait penser que c'est une solution, mais là où je suis d'accord avec le ministre, c'est qu'il ne faut pas réduire la question de la réconciliation en Côte d'Ivoire aux 3 personnalités.
C'est les principaux leaders, quand même.
Je ne suis pas là pour tirer la couverture, pour savoir que l'un a fait plus que l'autre. Aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est que les 3 s'asseyent.
Pour vous, c'est qu'ils s'asseyent. Mais les gens vont plus loin en disant qu'ils s'asseyent pour se décider à se retirer. Isaac a dit.
Non, Alain, moi, je voudrais d'abord rapidement dire à M. le ministre tout à l'heure quand j'ai parlé de négociation, de dialogue avant les élections, il nous a ramené au débat avec le Premier ministre Amadou et Ahmed Bakayoko. Non, il y a eu le débat sur le fichier électoral, sur la commission électorale indépendante. Tout ça, ça a été demandé que nenni. Donc vraiment, nous n'allons pas refaire ce qui est arrivé. Aujourd'hui, nous sommes en train de gérer les conséquences. Comment nous faisons pour sortir donc, de cette crise, pour avoir une paix durable? Maintenant, pour revenir à votre question, vous voyez, on nous parle de nouvelles générations, ainsi de suite. Vous voyez, ça ne se décrète pas. C'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui est souverain. Il faut permettre aux gens de dire « je suis candidat ». N'importe qui peut être candidat. Et c'est au peuple de dire « moi, j'ai choisi celui-ci par rapport à des critères ».
On ne va pas faire la langue de bois quand même.
Ça devient réducteur.
On ne va pas faire la langue de bois.
Non.
Soyons sérieux, on ne va pas faire la langue de bois. Vous êtes devant des jeunes. Il y a une centaine de jeunes, un peu plus, dans cette salle, qui ont envie que vous parliez le langage de la vérité. Chacun de nous, dans la rue, entend cela. Est-ce que vous ici aurez le courage de dire à ce que vous dites dans vos chambres à ceux qui ont décidé, à ceux qui ont été les principaux leaders, de dire peut-être qu'il est venu le moment de passer la main? Le président Alassane Dramane Ouattara a dit il y a quelque temps, avant le troisième mandat, qu'il voulait passer la main. Est-ce que ce n'est pas le moment de sortir cela du jeu aujourd'hui?
Mais Alain, sans utiliser donc de langue de bois, et je pense que c'est le débat qui va se faire après, nous on considère que le président a commencé à passer la main. Moi, je suis honoré de participer à un gouvernement et de diriger un secteur qui est aussi important et qui gère près de 70% de la population. Et donc, je dis qu'il ne faut pas réduire à des individus. Aujourd'hui, nous avons une dynamique qui est amorcée, mais je vais juste faire une transition. Vous avez dit dans vos propos que l'un des éléments qui a été soulevé comme gage de la réconciliation a été le retour de Laurent Gbagbo. On nous a vendu pendant des années, presque 10 ans, que le retour de Laurent Gbagbo serait gage d'une réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'on constate? Et je veux qu'il me réponde. Le retour de Gbagbo divise dans son propre camp. Comment on peut.
Mais comme
ne
c'est
pas
divisé chez vous aussi, comme c'est divisé au PDCI, c'est divisé partout. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Malheureusement, on arrive au terme de ce débat. Donc, je pense qu'on n'aura pas de réponse de vous. Et puisque nous sommes devant des jeunes qui ont besoin de parler d'avenir, on est devant des jeunes qui doivent prendre leur destin en main. Et que la réconciliation nationale est nécessaire, il y a une chose qui vous réunit tous, c'est l'unité du pays, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, pour qu'ensemble, nous chantions ce qui vous réunit tous, l'hymne national, s'il vous plaît. On va demander au ministre d'entamer l'hymne national.
Salut.
Jamais. Nous arrivons à la fin de ce débat africain à Abidjan. Merci d'avoir été là. La réalisation était assurée aujourd'hui par Jérémy Bessé, Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka. Nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur les antennes de Radio France Internationale. À bientôt Abidjan!
Le coq chante.